Décryptage, Marie Cazadebet.
Trois semaines des élections européennes, Matteo Salvini est à Budapest, en Hongrie, ce jeudi. Le ministre italien de l'Intérieur, patron de la Ligue, rêve d'une union des populismes européens. Mais le projet ne semble pas être une priorité pour le Fidesz de Viktor Orban, qui repousse l'éventualité à l'après-élection. Il faut dire qu'au-delà de leur aversion pour l'immigration, les deux dirigeants souverainistes n'ont que peu de points communs. Alors qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui les éloigne? Quels intérêts auraient-ils à s'allier dans l'hémicycle européen? Nos invités vont nous éclairer. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Patrick Martin-Grenier.
Bonsoir.
Spécialiste des questions européennes, vous enseignez à Sciences Po à l'INALCO, vous êtes l'auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» aux éditions Studirama, et nous sommes au téléphone aussi avec Anaïs Voigilis. Bonsoir.
Bonsoir.
Membre de l'Observatoire européen des extrêmes. Alors depuis des mois, Matteo Salvini tente de rassembler les partis populistes et souverainistes européens. L'Union fait la force, hein, ça pourrait être son credo pour ces élections. Mais pour l'instant, Patrick Martin-Grenier, à quel résultat est-il parvenu jusque-là?
Bien, écoutez, les résultats, ce sera après les élections, au lendemain des élections du 26 mai, pour voir s'ils peuvent constituer un grand groupe politique. Aujourd'hui, l'objectif, c'est bien de constituer un grand parti souverainiste. On a vu que M. Orban avait déjà rencontré M. Salvini. Salvini a organisé une réunion à Milan récemment, et le 18 mai prochain aura lieu une réunion à Milan de tous les partis populistes et extrémistes. Donc, ils veulent agréger des votes pour surfer sur la dynamique anti-migratoire aujourd'hui, puisque ce sont des thématiques porteuses, malheureusement. Ce qui veut dire que effectivement, Orban s'est érigé en rempart contre l'immigration, et je lisais hier l'interview qu'il a donnée à la Stampa où il disait qu'il était lui-même et Monsieur Salvini deux héros, parce que l'un avait stoppé l'immigration par la Méditerranée et l'autre par la terre. Donc c'est bien cette thématique anti-migratoire qui les unit aujourd'hui pour obtenir le plus de sièges possible demain au Parlement européen.
Anaïs Voigilis, le ministre donc de l'Intérieur italien a fait une sorte de tournée européenne. Il s'est presque transformé en ministre des Affaires étrangères ces derniers mois, tant il a multiplié les déplacements. Quel a été le frein à ses ambitions de créer une sorte de ligue des ligues pour préparer ces élections européennes?
La tentative de Matteo Salvini est en effet de rassembler tous les partis nationalistes et eurosceptiques autour de lui. Toutefois, il se heurte à une difficulté que ce parti, avec le Rassemblement National, avait déjà rencontré en 2014. C'est la difficulté de réunir sous une même bannière tous ces partis, parce qu'ils ont à la fois des programmes différents au-delà de la question migratoire. Ils ne s'entendent rarement sur les questions économiques et européennes. Et des stratégies et des histoires nationales différentes. C'est-à-dire que la stratégie d'un Viktor Orban et du Fidesz n'est pas du tout la même sur le plan européen que celle de Matteo Salvini et de la Ligue. Leur rapport à l'Union européenne est très différent. Leur rapport aux pays limitrophes de l'Union européenne est également très différent. Donc finalement, le vœu qui est de rassembler tout le monde s'heurte à des considérations nationales, mais finalement ce qui est assez logique quand on s'adresse à des partis nationalistes.
Si Matteo Salvini arrivait à convaincre le Fidesz hongrois de se rallier donc à la Ligue et à d'autres partis, Patrick Martin-Grenier, ça voudrait dire que le ministre italien aurait trouvé le Graal. C'est le Graal d'atteindre le Fidesz. J'imagine que dans cette alors je ne sais pas si on peut appeler une mouvance, parce qu'on a compris que finalement les politiques sont très différentes. Mais est-ce que ce Fidesz a une place particulière?
C'est-à-dire
un parti installé, peut-être.
Oui, c'est un parti installé. Vous savez, il y a une sorte de notoriété, d'embourgeoisement, si je peux me permettre d'utiliser ce terme. Ce sont des gens qui sont au pouvoir. Ils sont à la recherche d'une sorte de respectabilité. Car M. Orban, ça fait longtemps qu'il est au pouvoir. M. Salvini est vice-premier ministre en Italie. Donc, ce sont des gens qui sont en situation de responsabilité. Et ils se disent qu'au final, ce serait bien de pouvoir se rapprocher du Parti populaire européen pour conserver cette respectabilité et rallier ce parti politique pour qu'il y ait une grande coalition au final du centre droit avec la droite populiste qui permettrait de prendre les rouages du pouvoir au Parlement européen. Donc c'est le Graal que recherche M. Salvini, et en même temps il cherche à en devenir le leader, car vous savez que si demain il devait y avoir des élections législatives en Italie, il aurait plus de 30% des suffrages, il serait sans doute le premier ministre italien, et il va effectivement envoyer beaucoup de députés au Parlement européen, alors que le Fidesz c'est quand même relativement modeste, hein, le groupe sera plus modeste, le siège hongrois sont moins nombreux quand même au Parlement européen, mais aujourd'hui, effectivement, ça se jouera à quelques dizaines de sièges. Donc, plus ils vont grignoter des sièges au Parlement européen, plus effectivement, ils seront en situation de responsabilité pour demain influencer sur la législation, par exemple sur Dublin, sur l'immigration, sur la politique de l'asile.
Alors, vous évoquiez le PPE, c'est dans cette direction que le Fidesz regarde encore. Le parti de Viktor Orban espère retrouver sa place au sein donc du Parti populaire européen, où le retrouvent les Républicains français, la CDU allemande par exemple. Le Fidesz en a été suspendu en mars dernier pour ses dérives contre la liberté de la presse ou encore les ONG. Après une longue période de flottement et de division au sein du parti, à l'image des positions que vous allez entendre, elles ont été exprimées en septembre dernier par ces deux eurodéputés, Françoise Grosstête et Brice Hortefeux.
On avait l'impression de se faire un peu ridiculiser par Viktor Orban. On lui disait, ça va pas, vous pouvez pas vous permettre de faire ceci ou cela. Lui n'avait aucune envie de suivre nos recommandations.
Je suis extrêmement las, fatigué de tous ces donneurs de leçons qui dénoncent à longueur de journée le populisme, mais ils devraient se rendre compte qu'à force de le dénoncer, il progresse comme il n'a jamais progressé.
Anaïs Voigilis, pourquoi le Fidesz de Viktor Orban tient-il tant à faire partie du PPE, un parti dont il renie d'ailleurs certaines valeurs essentielles comme l'europhilie ?
Alors, je suis pas convaincue qu'aujourd'hui la stratégie d'Orban soit exactement de faire partie du Parti populaire européen. Je pense que Orban se projette dans une reconfiguration de l'échiquier européen et une reconfiguration de la droite au sein du Parti européen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Orban se voit en héritier de la démocratie chrétienne, donc il s'estime à droite et pas du tout d'extrême droite et donc pas du tout dans la même mouvance que ce qu'est la Ligue ou le Rassemblement national. Mais la stratégie d'Orban est du coup de fracturer un peu cette droite. Et c'est là que le jeu qu'entretient Emmanuel Macron face à Orban est assez intéressant à étudier, puisque finalement, l'un et l'autre s'alimentent. On a d'un côté un Emmanuel Macron qui veut recréer, qui dit un petit peu que vous avez le choix entre les conservateurs ou le progressisme, je suis le progressisme, mais vous avez Orban qui dit je suis le bloc conservateur. Ce qui devrait amener une recomposition de la droite, alors peut-être pas dès le lendemain des élections européennes, mais en tout cas qui va arriver à mon avis assez rapidement, entre un bloc conservateur qui serait incarné par Orban et un bloc beaucoup plus libéral qui se retrouverait plutôt sur la ligne d'Emmanuel Macron, avec la ligne de fracture autour de deux choses finalement, c'est quelle Europe on veut, et un Orban est plutôt sur une ligne un peu moins de supranationalité, un retour en force des États-nations pour remaîtriser le deuxième point de convergence qu'il a avec Salvini, qui est la question migratoire. Mais aujourd'hui, c'est important pour Orban d'être à droite, mais je ne suis pas convaincue qu'il soit vraiment intéressé pour conserver le PPE dans cette configuration, puisque finalement, il a du mal à y peser.
Patrick Martin-Genier, la présence du Fidesz, hein, donc simplement suspendu et pas exclu du PPE, mais quand même ce parti populaire européen un peu dans une situation délicate. C'est pas un ami facile à assumer. Finalement, pourquoi il n'a pas été exclu ? Quel est encore son intérêt à le conserver dans cette famille politique ?
Je crois que le principal intérêt du PPE, c'était de ne pas s'imploser. Il fallait pas que ce groupe implose. Il fallait pas que la droite classique, populaire, la droite démocrate chrétienne, gouvernementale implose, parce que c'était ça le risque. Entre, vous avez entendu Madame Grosstête et Monsieur Hortefeux, on voit bien qu'il y a deux positions dans la droite classique. Il y a ceux qui disent attention, faut pas donner de leçon de morale, vaut mieux avoir Monsieur Orban avec nous. Et il y a des gens plus modérés comme Madame Grosstête qui disent y en a marre d'avoir des gens comme ça au sein de cette droite classique. Ce sont des gens qui ont un message clairement xénophobe, raciste, voire antisémite. Et donc on ne peut pas garder ces gens-là parce que ce n'est pas notre tradition à nous. Mais on voit bien que là il y a des difficultés. Et par exemple, on l'a vu également ce week-end en Espagne, où le Parti Populaire, qui fait partie du PPE, eh bien, s'est considérablement droitisé. Le résultat en a été qu'il a subi une défaite électorale très importante.
On annonce justement une érosion du PPE dans ces élections européennes, notamment, vous pensez, par rapport à sa position, par rapport à des partis comme le Fidesz. Anaïs Voigilis, ça pourrait lui porter préjudice ?
Oui, il est évident que la divergence, puisque vous avez, si vous trouvez une des divisions au sein des élus du Parti populaire européen sur le rapport qu'il doit y avoir à Orban, vous avez la même chose au niveau des électeurs, et certains électeurs vont certainement prendre leur distance à l'égard du Parti populaire européen pour se tourner vers des partis qui vont être plus libéraux quand d'autres vont adhérer. Mais l'érosion, elle vient aussi d'un contexte plus généralisé, qui est que la droite dans plusieurs pays échoue à répondre aux angoisses des citoyens et comme la gauche, c'est-à-dire il y a eu des systèmes d'alternance dans un certain nombre de pays européens où la gauche et la droite alternaient au pouvoir sans que ça se traduise de manière très concrète pour les citoyens. Et donc c'est ce phénomène de un peu de crise de la démocratie, de la représentativité qu'on retrouve un peu partout en Europe, qui aura aussi un impact assez fort sur les résultats des différents partis de droite aux prochaines élections.
L'alliance, en tout cas, des populismes italiens et hongrois, on le comprend, ne semble pas aller de soi. Il faut dire que les points de rapprochement, vous les avez déjà évoqués, sont moins nombreux que les points de désaccord. Écoutez, Ákos Benszegát, il est l'un des candidats du Fidesz aux européennes, et voilà ce qu'il disait hier de la rencontre prévue entre Matteo Salvini et Viktor Orban.
L'enjeu est l'immigration, parce que Matteo Salvini dit qu'il est possible d'arrêter l'immigration illégale dans un pays où il y a des frontières maritimes. Monsieur Orban, il dit que c'est quelque chose de très bien, parce que la Hongrie a montré qu'il est possible d'arrêter l'immigration illégale par terre.
C'est une communauté d'intérêt ou une communauté de valeurs ?
Déjà, il y a de sympathie entre les deux zones, sympathie humaine et sympathie aussi pour les résultats politiques, surtout en matière d'immigration. Matteo Salvini et son groupe, il a toujours voté contre les critiques qui ont été formulées contre la Hongrie. Donc évidemment, c'est quelque chose à prendre en compte.
Patrick Martin-Genier, vous le disiez, hein, la politique anti-immigration très ferme, on viendra sur la forme, mais en tout cas c'est vraiment ce qui rapproche avant tout Matteo Salvini et Viktor Orban.
Bien sûr, et non seulement ça, mais c'est ce qui a fait leur succès électoral. Viktor Orban a été réélu brillamment il y a un an. Matteo Salvini, il y a un an, a été élu, mais il était dans une coalition avec Berlusconi, il n'avait eu que 17% des voix lorsque Cinque Stelle 5 étoiles avait eu 30%, et aujourd'hui s'il y avait des élections, Monsieur Salvini obtiendrait plus de 30%, voire 35% des voix. Donc c'est véritablement la clé du succès électoral de ces deux personnages responsables politiques. Et évidemment, puisque ça réussit, il faut continuer à surfer sur cette vague migratoire.
Est-ce que leur rhétorique, justement, sur ce thème-là ne les rapproche pas aussi ? Ils se présentent finalement tous les deux comme le sauveur de leur pays ou de leur culture même.
Oui, tout à fait. En fait, ça va au-delà des difficultés purement économiques, car je vous rappellerai que les peuples européens aujourd'hui sont très préoccupés également par le chômage, notamment le chômage des jeunes, et qu'on voit que la thématique migratoire est moins importante dans les votes. Et donc, il y a un message idéologique. Par exemple, lorsqu'on lit l'interview de M. Orban dans la Stampa hier, il se présente encore comme le défenseur de la chrétienté contre l'islam. Nous ne voulons pas de musulmans en Hongrie. Hein. Et c'est un peu la même chose de la part de M. Salvini, qui ne veut plus entendre parler d'une immigration en disant on a stoppé l'immigration et nous ne voulons pas qu'il y ait une invasion par notamment les musulmans en Italie. Donc c'est vrai que c'est ce qui les rapproche, mais il y a un message idéologique très pernicieux et très dangereux derrière le message de ces deux dirigeants. Ce n'est pas uniquement une protection économique, il y a autre chose, c'est bien la défense d'une identité de l'Europe.
Anaïs Vagelis, au-delà donc de cette rhétorique, presque de cette idéologie, on a quand même deux situations très différentes. Une Italie qui est une porte d'entrée de l'Europe, une Hongrie qui a fermé ses portes et qui se retrouve finalement sans immigration ou quasiment. Leurs politiques ne peuvent pas être les même sur cette question-là.
Leurs politiques ne peuvent pas être les mêmes, parce que c'est-à-dire que la manière de pouvoir protéger son territoire n'est pas la même pour les deux pays, en effet. Maintenant, la politique, leur volonté politique est exactement la même, c'est le refus d'accueillir tout migrant sur le territoire européen et au nom de la préservation de l'identité, comme le disait l'autre intervenant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des divergences sur les moyens à mettre en œuvre au regard du contexte national, mais l'ambition, au final, est la même. Avec une petite divergence qui existe, c'est que aujourd'hui la Hongrie, comme d'autres pays à l'est de l'Europe, et également en Allemagne, est dans une situation démographique négative. Et donc, l'immigration était vue comme une solution par l'Allemagne, ce qui n'est pas du tout vu de la même manière en Hongrie et qui amène à la mise en œuvre de politiques qui se veulent sociales, mais qui sont des politiques natalistes pour essayer de changer cette tendance démographique.
Alors, je vous propose d'écouter donc sur cette question d'immigration dans l'ordre. Viktor Orban, début avril, lors du lancement de la campagne pour les européennes, puis Matteo Salvini en septembre dernier, lors d'une visite en Sicile.
Les millions de clandestins arrivés en Europe menacent la sécurité et l'identité chrétienne des Européens. Les Anglais s'en vont et les migrants sont là. Voilà le bilan de Jean-Claude Juncker.
Une des priorités, c'est que dans ce pays, on perde moins de temps et on dépense moins d'argent pour les migrants clandestins. Pour les clandestins, le bon temps, c'est fini. Préparez-vous à faire vos valises, faites-le correctement, dans la sérénité, la paix et la tranquillité.
Patrick Martin-Jeunier, on entendait Viktor Orban pointer du doigt la responsabilité de l'Union européenne. Est-ce que c'est pas aussi ce qui rapproche Matteo Salvini et le Premier ministre hongrois? C'est cette haine des institutions européennes et pourtant, personne ne parle de quitter l'Europe.
C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'on tape sur le dos de la Commission européenne, il y a une véritable haine des institutions, vous avez raison de le dire, on veut lutter contre le diktat de la Commission européenne. D'ailleurs, je rappelle qu'il y a eu une très sale campagne contre Jean-Claude Juncker à Budapest, et donc c'est grave parce qu'aujourd'hui, voilà des pays dont on va fêter le 15e anniversaire de l'intégration dans l'Union européenne et qui ont tiré bénéfice de l'Union européenne, qui ont obtenu des fonds structurels très importants. D'ailleurs, je rappellerai que le Fidesz est soupçonné d'avoir détourné des fonds de l'Union européenne, donc ils sont très content d'obtenir des fonds pour restructurer l'économie, restructurer les territoires, mais en même temps on casse du sucre sur le dos de la Commission européenne parce que électoralement c'est bon. Et c'est là que ça ne va plus parce que on profite de tous les bénéfices de l'Union européenne, puis en même temps politiquement il est de bon ton de taper sur l'Union européenne pour obtenir des sièges. Donc c'est donc une rhétorique anti-européenne très inquiétante et qui par lequel Monsieur Orban souhaite obtenir le plus de suffrages possible.
Anaïs Vagilis, leur autre point commun, c'est d'avoir envie de transformer cette Union européenne pour qu'elle leur profite davantage, évidemment, électoralement aussi. Mais est-ce que leur vision de l'Union européenne idéale est la même ?
Non, je ne crois pas qu'ils aient la même vision de l'Union européenne, de la même manière que si on regarde un certain nombre d'États, enfin en tout cas de dirigeants politiques sont tentés de se tourner vers la Russie ou vers les États-Unis, c'est déjà une opposition, que ce soit la Ligue, le Rassemblement national ou le FE, ils sont beaucoup plus russophiles que ne le sera jamais le Fidesz ou le Parti droit et justice en Pologne. Donc déjà le rapport aux autres puissances internationales est différent et va expliquer un rapport différencié à l'Union européenne. Les attentes à l'égard de l'Union européenne ne sont pas les mêmes puisque, comme cela a été dit, la Hongrie bénéficie d'importants fonds structurels européens, l'Italie bénéficie de moins de fonds. Donc il y a vraiment une vision de ce qu'est l'Europe de manière très très différent, qui s'explique par les histoires nationales par les situations nationales actuelles. Et par ailleurs, aujourd'hui, ce qui fonde l'alliance le rapprochement, on va dire, de tous ces dirigeants, c'est la question migratoire, mais la question migratoire ne peut pas suffire à faire un programme politique. Et sur les questions économiques, il y a des divergences très profondes entre ces différents dirigeants.
Patrick Martin-Jeunier, pour conclure, on comprend que les divergences sont plus nombreuses entre ces deux partis, la Ligue et le Fidesz, et plus largement, finalement, entre tous les partis populistes européens. Mais alors, à quoi bon, finalement, se retrouver au sein d'une alliance qui va forcément être compliquée à gérer?
L'alliance va être compliquée à gérer, mais d'une part, l'objectif, c'est bien de conquérir le plus de sièges possible au Parlement européen pour influer sur la prochaine législature, notamment le vote du prochain budget, pour lequel, d'ailleurs, il est prévu un triplement des sommes d'argent consacrées à la défense des frontières. Donc, il va bien falloir que ces gens-là se positionnent sur des propositions de la Commission européenne. Et donc, c'est bien cela. Et derrière, quand même, il y a la prise de pouvoir au niveau de la Commission européenne, parce qu'au lendemain des élections, il va falloir désigner le président ou la présidente de la Commission européenne, ainsi que les membres de la Commission européenne. Ce qui veut dire que il y aura une lutte de pouvoir très importante et que ces gouvernements populistes veulent être en position de force pour envoyer à Bruxelles les commissaires qui refléteront leur propre idéologie politique.
Rendez-vous donc après ces élections européennes pour voir ce que peuvent donner ces tentatives d'alliance. Est-ce qu'il y aura une grande ligue des lits comme le souhaite Matteo Salvini? Merci beaucoup Anaïs Voigilis de l'Observatoire européen des extrêmes d'avoir été en ligne avec nous. Merci Patrick Martin-Genier. Je rappelle le nom de votre ouvrage. L'Europe a-t-elle un avenir? C'est aux éditions Studirama. Et merci à toute l'équipe de décryptage, Louise Kaledek, Vanédis Feuille et Alice Ménard qui était à la réalisation. Tout de suite un nouveau journal sur RFI.